L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Maud, nous abordons une question un peu délicate et à la fois aussi assez enthousiasmante dans un certain sens. C'est la question que la mission du couple, la mission du chrétien, est parfois un chemin éprouvant, mais aussi parce qu'il est éprouvant, il est aussi source de conversion, source de sanctification. Et donc c'est un chemin aussi de sainteté pour nous. Et donc c'est cet angle-là que nous allons aborder aujourd'hui. Alors est-ce que tu veux nous commencer par le texte de Matthieu au chapitre 11 ?
Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste, en effet, est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit, et l'on dit c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers tout ce qu'elle fait.
Voilà, et donc, comme quoi Jésus est objet de contradictions, de constantes critiques. Et déjà, l'apôtre Jean le soulignait également dans son prologue, quand il disait « Jésus était dans le monde, il était déjà dans le monde, mais le monde ne le connaissait pas. Et quand il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli. » Voilà, il faut souligner que la mission parfois n'est pas rose et difficile, que nous sommes parfois dans une situation aride, qui est en contradiction avec la dynamique du monde, et que cette bonne nouvelle est ignorée et aussi refusée par beaucoup. Voilà, et nous sommes dans cette dynamique, en fait, de la mission de Saint Jean-Baptiste, y compris aujourd'hui, même 2000 ans après la naissance du Christ et la résurrection. Voilà, nous sommes comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ces sentiers.
Oui, Jean-Baptiste criait dans le désert, donc ça ne devait pas être très facile. Et il appelait à la conversion, ce qui n'est pas non plus une parole très facile à dire. Et nous, dans notre mission de couple et de famille, nous sommes aussi parfois dans un désert, puisque autour de nous, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Parfois, nous sommes très isolés. Et comme Jean-Baptiste, notre vie et notre parole doit annoncer dans le désert qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. L'objectif étant bien sûr de s'effacer devant le Christ quand les personnes le rencontrent. Mais bien sûr, nous avons à annoncer cette bonne nouvelle malgré l'apparent désert dans lequel nous sommes.
Voilà. Et comme au temps du Christ, il y a un refus majoritaire de la bonne nouvelle, comme au temps de Paul, qui à un moment parlait à Athènes, et les autres se marraient, rigolaient, on t'écoutera un autre jour, hein, pauvre garçon. Et donc, voilà, comme le Christ, nous sommes une pierre, nous sommes appelés à être pierre vivante, rejetée par les hommes. Comme Jésus, on peut être effectivement accusé, rappelons-nous des différents textes de l'Évangile, on l'a accusé d'être glouton, d'être ivrogne, d'égarer le peuple, d'un possédé, de porter de faux témoignages, de blasphémer, de soulever la foule, d'enseigner une fausse doctrine, enfin bon, je veux dire, en passe, c'est les meilleurs, enfin, je veux dire, c'est vraiment, beaucoup entendent, mais beaucoup se détournent. Et c'est un mystère qui est une situation qui est incontournable de la vie chrétienne et de la vie missionnaire. C'est à la fois le mystère de la liberté, de la grâce. Pourquoi Jésus sur la croix face aux deux larrons, il y en a un qui est transformé, qui est complètement bouleversé par le Christ et qui va le confesser. Jésus dira, tu seras ce soir au paradis avec moi. Et puis l'autre non seulement le rejette, mais il le raille, il s'en moque. Voilà, pourtant c'était les deux larrons, ils avaient dû faire les mêmes grosses bêtises. Et voilà, c'est l'aspect mystérieux de la mission.
Il ne faut pas s'en étonner, le Christ lui-même a eu des difficultés. Et puis derrière lui, les apôtres, comme nous citions déjà cette parole il y a quelques semaines de Saint Paul qui dit « Le Christ crucifié est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et nous avons à annoncer ce scandale et cette folie parce que nous savons que c'est de là que vient la lumière. Mais malheureusement, même du temps de Jésus, beaucoup de disciples se sont détournés de lui. Quand il a eu, par exemple, le discours sur le pain de vie quand
ouais.
il a dit qu'il allait être livré pour la vie du monde.
Il a dit à ce moment-là
que beaucoup de disciples se séparèrent de lui et firent marche arrière. Dans certaines traductions, il y a même ce mot-là, firent marche arrière. C'est retourne en arrière, c'est se détourne vraiment complètement de ce qu'il est en train de dire. Mais on a suivi un fou, quoi. Ils n'ont pas du tout compris ce qu'il disait. Et par rapport au scandale de la Passion, c'était pas mieux. Comment comprendre un Dieu qui finit sur la croix, dans un supplice absolument abominable? C'est vraiment quelque chose de très difficile. Et donc, les disciples de Jésus, d'hier et d'aujourd'hui, que nous essayons d'être, ont aussi à se confronter à cette difficulté de l'annonce de la Passion.
Voilà. Et puis, malgré certains qui se disent disciples, Jésus dira « Certains d'entre vous ne croient pas ». Et puis, il va même plus loin. Il va essayer de dénoncer et mettre en garde ses disciples contre des faux prophètes, des loups déguisés en moutons qui égareront bien de gens. Beaucoup chuteront et chez beaucoup, l'amour se refroidira. Voilà. Et dénonçant ceux qui scandalisent les petits qui croient en moi. Voilà, c'est vraiment... Voilà, nous sommes dans une situation... On n'est pas dans l'église roudoudou, tout va bien, câlin, câlin, bisous, bisous. Hein. La vie chrétienne, la vie missionnaire... est une vie de combat, aussi de difficultés, et il ne faut pas en avoir peur, parce que le Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a dit, il nous l'a redit de tellement de manières.
Oui, on trouvera aussi cette attention. Si on n'a pas d'obstacles, si on n'a pas de confrontation au monde, parfois c'est qu'on est trop confondu au monde et qu'on n'apporte pas une parole de contradiction suffisamment forte. Donc ça fait partie de l'annonce de l'Évangile que d'apporter une contradiction qui va évidemment remuer, éventuellement déclencher des hostilités. Mais au travers de tout ça, Alex, rappelons-nous de cette béatitude qui justement concerne les missionnaires. Heureux serez-vous si à cause de mon nom vous êtes persécutés, qu'on dit toutes sortes de choses contre vous à cause de moi. Alors, etc., vous serez heureux au royaume des cieux. Parce que justement, nous allons trouver notre bonheur dans cette confrontation. Pourquoi ? Parce que à travers même le côté aberrant de cette confrontation, nous allons voir l'œuvre de l'Esprit et nous allons nous-mêmes avoir le cœur touché et qui va avancer vers une conversion intérieure. Cette épreuve que nous traversons, nous avons été comme le Christ confrontés, nous sommes comme le Christ confrontés à la persécution, mais cela ne nous empêche pas de voir où nous allons, c'est-à-dire l'objectif dont nous avons parlé, convertir, annoncer la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu.
Et comme ce chemin, cette situation ne nous est pas propre, nous ne faisons que suivre le Christ dont Pierre parle, comme le Christ pierre d'achoppement, Jésus était signe en but de contradiction. Voilà, on se retrouve dans un instant. Voilà, Maud, nous nous retrouvons pour continuer sur ce sujet délicat. Nous avons abordé combien la mission est éprouvante, et à la suite du Christ, c'est rien de plus pour nous que pour le Christ. Mais nous voulons focaliser dans cette deuxième partie combien justement cette épreuve missionnaire est un levier de conversion pour nous.
On a retrouvé dans la parole de Dieu beaucoup de points de conversion qui ont été soulignés par les actes, notamment par rapport justement à ces épreuves que nous traversons. Donc le premier point, par exemple, c'est l'épreuve qui touche à la constance. C'est-à-dire quand on se heurte à la difficulté, il faut continuer, persévérer dans la confiance.
Et là comme à chaque fois, on va illustrer un peu ces éléments de conversion et de fruits, de vertus qui viennent habiter, construire, édifier notre personnalité. On va s'appuyer constamment sur la parole de Dieu et la parole notamment des épîtres de Paul et des actes, mais aussi de Pierre, etc. Timothée.
Voilà, alors pour la constance, vous sauverez vos vies par votre constance, c'est dans Marc. Dans l'épître de Saint Jacques, bien éprouvé, votre foi produit la constance. Donc nous avons là un point de conversion, grandir dans la constance, c'est ce qu'on appelle aussi la fermeté de la foi.
Voilà, l'assurance de la foi, parce que notre foi est enracinée. On pourrait aussi se penser à l'évangile du semeur. Voilà, est-ce que la graine de la foi est vraiment à être plongée ses racines dans la bonne terre? Est-ce qu'elle ne va pas griller au premier rayon du soleil, etc. Elle va pas être étouffée par des buissons. Voilà, donc ces épreuves sont pour nous un aiguillon dans la constance.
Alors un autre point, c'est que curieusement, les combats que nous menons sont aussi l'occasion d'une stimulation pour nos frères chrétiens.
Pour nous, et voilà, pour les uns et les autres, entre nous. Mes chaînes, dit Paul, ont été un stimulant pour la plupart de nos frères dans le Seigneur, qui sont maintenant plus hardis pour annoncer ouvertement la parole. Voilà, c'est-à-dire que cette épreuve stimule, fait grandir en nous le côté hardi, la hardiesse, pour annoncer ouvertement la parole. Vous voyez qu'à un moment, nous avons des difficultés en disant « Oui, on veut bien témoigner de l'Évangile, par notre vie simplement, etc. » Mais pour témoigner explicitement, c'est difficile. Et bien voilà, c'est un chemin de conversion, c'est un chemin de croissance, de pouvoir à un moment annoncer ouvertement la parole. Et Paul montre que c'est une difficulté.
Voilà, et d'ailleurs, quand on voit des grands témoins de notre temps qui annoncent à leur façon le Christ dans des médias ou autres, ça nous encourage à faire de même. Donc il y a une sorte d'affermissement de la foi, de stimulation à travers les épreuves.
Voilà, et le Christ vient en nous affermir, sa force agit en nous, nous nous enracinons en lui. Ces épreuves nous conduisent à nous renforcer. C'est d'ailleurs, Paul avait fait le parallèle avec le sport. Effectivement, nous entraînons comme les sportifs s'entraînent pour le combat et pour la victoire. Et il en va de même par rapport à la mission qui, à un moment, est progressive. Et au fur et à mesure, nous grandissons dans la hardiesse de la parole que nous annonçons.
Alors un autre point qui découle de tout ce qu'on a dit, c'est évidemment la conversion personnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on annonce les mystères de Dieu et la force du Christ, forcément ça nous renvoie aussi à notre propre foi. Et combien de fois nous sommes sortis d'un moment d'annonce de la parole en nous disant « bah tiens, ce point dont j'ai parlé, la joie ou la paix ou le pardon, je l'ai pas vraiment vécu, donc il faut que j'aille plus loin dans ce que j'ai annoncé, que moi aussi je le mette en œuvre, que moi aussi je l'applique. » Et donc c'est un accélérateur pour notre propre conversion, pour notre propre sainteté. Et nous avons là comme un effet boomerang de l'évangélisation, c'est-à-dire que ce que nous annonçons aux autres, nous sommes les premiers à le recevoir pour nous-mêmes et à le mettre en œuvre dans notre vie, parce que, comme on l'a dit, on va le mettre en œuvre, on va le faire.
Et puis, c'est aussi, ces épreuves sont des éléments de discernement pour nous et pour l'Église, de nos racines intérieures. Qu'est-ce que dit Matthieu ? Survienne une tribulation, celui qui n'a pas de racines trébuche. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une difficulté pour ceux qui ne sont pas affermis dans la foi. Et moi-même, personnellement, ces dernières semaines, où j'ai vécu une épreuve personnelle, santé, etc., qui était éprouvante dans la foi, et ben effectivement, j'ai remis toute une série de choses sur la table devant le Seigneur, avec mon père spirituel, dans la foi, dans la prière, en disant, Seigneur, tu viens m'aiguillonner pour renforcer en moi la foi, voilà, ces difficultés, ces contraintes, ces choses qui n'étaient pas prévues, et ben c'est un aiguillon permanent pour que notre foi s'approfondisse, pour que notre humilité grandisse, etc.
Puis on apprend aussi à travers ces tribulations à discerner et à purifier l'esprit qui nous anime, savoir vraiment qu'est-ce qui nous pousse à la mission. Si c'est trop de l'orgueil ou des choses personnelles, et ben les tribulations vont casser tout ça et casser notre zèle missionnaire, et on saura que nous étions engagés dans une mise en avant de nous-mêmes que
de la gloriole,
et voilà, que d'être poussé par l'esprit. Donc éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, nous dit la lettre de Jean, et bien la tribulation est une bonne façon d'éprouver les esprits qui nous animent pour savoir si on est vraiment dans la volonté d'annoncer le Christ ou si on est dans une récupération personnelle de la mission.
Voilà, et puis la mission est source également de purification. Dieu éprouve notre cœur. C'est une aussi source également de patience. Soyez patient dans cette épreuve. C'est aussi une expérience d'abandon. Mon Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas, dit Paul aux Hébreux. Et pour avoir connu l'épreuve, Christ vient au secours des éprouvés. Voilà. Et donc, il faut avoir foi que le Christ vient nous rejoindre dans nos différentes épreuves. Mais c'est pas simplement de la théorie, il faut vraiment le vivre concrètement au cœur de sa vie.
Un des derniers points qu'on peut envisager, Alex, mais il y aura encore beaucoup à dire, mais par exemple, c'est l'humilité qui est le fruit le plus important de ces tribulations. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces épreuves, on apprend à être humble, à ne pas se prendre au sérieux. Il faut avoir aussi un peu d'humour et à découvrir que, à travers ces tribulations, finalement, nous sommes peu de choses. Si jamais le Christ n'est pas tout en nous, nous ne sommes rien et nous sommes ballottés par ces événements. Donc, si nous voulons les traverser, c'est les yeux fixés sur le Christ en tenant sa main, et alors nous serons avec lui.
Alors, avec cette parole de Jacques, qui est toujours Jacques, il a toujours des paroles qui sont un peu ciselées comme du verre. Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux humbles, il donne la grâce. Donc, pour que nous puissions vraiment exercer à dessein notre ministère missionnaire, quel qu'il soit, il nous faut grandir dans l'humilité, et l'humilité s'acquiert également dans l'épreuve. Et effectivement, Paul éclaire ce propos en disant, en interpellant le missionnaire, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors pourquoi t'en glorifier ? Nous ne donnons dans la mission que ce que nous avons reçu gratuitement par le Christ.
Voilà, alors on peut se terminer par ce petit passage sur les différents points de conversion, par cette phrase de Paul VI que j'aime énormément, c'est-à-dire qu'il compare les tribulations de la mission au travail de la femme qui enfante.
Ouais, c'est très, très 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 beau texte de Paul VI.
Même si notre vie inclut la douloureuse épreuve de la femme qui enfante dans un certain abandon, celles-ci, les douleurs justement, sont rapidement changées en joie spirituelle que personne ne peut nous enlever. Tel est le statut de l'existence chrétienne apostolique.
Voilà, c'est un travail d'enfantement, ces tribulations, ces difficultés. C'est un travail d'enfantement pour nous, incontournable, par rapport à la mission et la dynamique missionnaire. Donc on pense vraiment particulièrement à notre mission en tant que parents. Malgré ces épreuves, il faut que nous puissions accueillir la joie spirituelle d'enfanter nos enfants et les personnes qui nous sont confiées à la vie chrétienne.
D'ailleurs, on retrouvera ce thème aussi dans une épître de Paul qui dit qu'il a enfanté ses églises et ses enfants dans la foi, justement à qui il a donné la bonne nouvelle du salut. Et c'est que, justement, il compare ce travail et ce labeur apostolique à un enfantement dans la douleur. Mais quelle n'est pas sa joie, puisqu'après il s'exclame, par exemple, en parlant de Timothée ou Tite, ses enfants bien-aimés, je me réjouis dans le Seigneur à cause de vous, je me souviens de toute ce que le Seigneur a fait en vous, etc. Et on sent une jubilation de voir la maturité de ces enfants spirituels grandir et s'affermir. Donc à travers ce travail d'enfantement, il y a aussi une grande joie qui jaillit. Donc ne pas s'arrêter à la difficulté de ces points de conversion qu'on a nommés, même s'ils sont importants pour purifier notre action missionnaire, mais ils doivent être orientés vers la joie spirituelle qui nous est donnée lorsque nous voyons le fruit de notre mission.
Alors moi, il faudrait peut-être, pour la fin de cette émission, peut-être faire une focale pour qu'un des domaines qui nous sont vraiment propres pour la vie conjugale et la mission conjugale, notamment tout ce qui concerne la vie conjugale, la sexualité, le respect de la vie, etc. Le malin vraiment vient vraiment déformer, dénaturer, pervertir l'image même de Dieu qui est en nous, qui est dans la personne, dans l'enfant, dans le vieillard, dans le couple, dans la sexualité, et vraiment il vient le combattre parce que c'est l'image même de Dieu. Donc il est logique qu'il y ait un profond combat spirituel dans tout ce domaine, dans cette mission qui nous est particulière. Satan, effectivement, s'attaque à un signe prophétique et sacramentel de la présence même de l'existence de Dieu au cœur du monde, qui est une seule chair, le fruit de cette une seule chair, qui est la vie, sens de la sexualité, la vie naissante, etc. Et donc c'est normal que ça soit comme un épicentre de l'attaque maligne contemporaine, qui, comme par écho, illustre combien c'est un champ évangélisateur absolument prioritaire.
Voilà, et on voit d'ailleurs que dans la plupart des conflits, il y a toujours des agressions pour séparer les familles, détruire la vie, toucher à la femme. Tout ce qui porte la vie, qui porte l'unité familiale est systématiquement attaqué quand il y a des conflits. Donc ça veut bien dire qu'il se passe là, il y a un enjeu fort, et que quand on annonce la bonne nouvelle du couple, de l'amour, de la vie, de la sexualité, on va déclencher des réactions qui sont au-delà du raisonnable, parce qu'on s'attaque au combat spirituel de fond. Donc il y a les tribulations de la mission, je dirais, qui sont inhérentes à la difficulté concrète d'annoncer la parole. Et puis il y a la difficulté, il y a le combat spirituel qui nous demande de tenir humblement, fermement dans la foi, parce qu'on sait à quoi on touche quand on touche à ces sujets-là.
Alors je pense aussi que c'est très important, c'est que il y a un combat très fort spirituel dans ces domaines-là, mais comme s'il y a un combat fort, c'est le signe que c'est vraiment un enjeu important. Et d'ailleurs, le curé d'Ars, Padre Pio, Marthe Robin, l'accompagnateur, le père spirituel de Marthe Robin, le père Finet, soulignait de manière très claire, vous savez, là où il n'y a pas de combat vraiment très intéressant, le malin, il ne se dépasse pas. Par contre, là où l'enjeu est très important, il y a de la bagarre. Donc il faut bien être conscient qu'effectivement, il est logique que dans ces domaines-là, quand nous essayons de missionner et de témoigner, effectivement, il y ait des réactions vives de celui qui n'est absolument pas d'accord et qui veut dénaturer l'image du Christ. Et c'est pour ça que nous avons vraiment à entendre l'exhortation de Paul sur le combat spirituel. Maud.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Voilà. Et donc, c'est conviction, vraiment, que le Christ nous donne les armes du combat, que nous pouvons aussi reprendre cet autre texte de Paul. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Voilà, c'est à cette bénédiction des armes du combat spirituel que nous invoquons pour vous comme don du Seigneur dans chacune de vos vies personnelles et conjugales. Et donc, que le Seigneur vous bénisse en toutes choses.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The intimate friendship.